Nous poursuivons notre discussion avec Claude Lanzmann. Nous avons achevé cette première partie d'émission tout à l'heure en disant avec Antoine Guillot notre grand plaisir de lecteur devant ce livre magnifiquement écrit dans une très belle langue. C'est vrai que on vous avait invité dans cette émission, Claude Lanzmann, il y a à peu près 2 ans maintenant, à l'occasion de la sortie en DVD de votre premier film, Pourquoi Israël ? Un film qui était sorti sur les écrans en 1973, mais la genèse de ce film, vous nous l'aviez raconté, c'était un reportage en 1952 pour le journal Le Monde, un reportage qui s'avéra très vite sur place en Israël, impossible comme reportage parce que ça touchait à des questions beaucoup trop intimes, trop complexes pour un exercice journalistique. Et Jean-Paul Sartre, alors, vous avez conseillé d'en faire un livre, ce que vous aviez commencé de faire, et vous aviez expliqué que vous aviez écrit 100 pages, que vous trouviez d'ailleurs très bonnes, mais que vous vous étiez arrêté là. C'était, cela dit, votre première expérience d'écriture au long cours à ce moment-là.
D'écriture d'un livre, oui. Oui.
Vous l'avez toujours ? Ces 100 pages, elles sont quelque part chez vous ?
Non, elles ont disparu. Moi, je ne garde pas les choses. Elles ont disparu, je ne sais pas où elles sont. J'ai quand même changé de vie pas mal de fois. Il y a sûrement des gens ou des femmes qui possèdent cela, mais je ne sais pas où c'est.
Bon. Disparu.
Disparu. Mais j'ai quand même écrit pas mal dans la suite de ma vie. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup d'articles.
Oui, etc. des articles. Mais je parlais de cette expérience de la longue durée en livre, là, pour
en
le
livre,
coup.
Non, c'est la première fois.
Mais puisque vous parlez justement d'articles et de revues, je vous propose d'entendre évidemment une autre femme très importante de ce livre, Simone de Beauvoir, qui parle ici, et c'est pourquoi nous allons en parler tout de suite, de la revue Les Temps Modernes.
En octobre 45, paraissait le premier numéro des Temps Modernes.
Simone de Beauvoir.
Nous n'avons jamais été affiliés à aucun parti, ni pris dans aucune espèce d'idéologie figée. Il s'agissait de faire, comme vous le disiez tout à l'heure dans une conversation, au coup par coup. C'est-à-dire que sur chaque plan, nous élaborions nos jugements, nos idées, et nous prenions nos positions. Par exemple, les grands moments, ça a été, mettons, la guerre d'Algérie. Au moment de la guerre d'Algérie, il est évident que socialistes, communistes, étaient d'une certaine manière contre la guerre, mais n'étaient pas d'une manière franche pour l'indépendance. Alors que nous avons été quelques-uns, dont vous étiez, à signer le manifeste des 121, tout était plus nombreux par ailleurs, qui vraiment réclamait l'indépendance de l'Algérie, et même plus que ça, réclamait l'amnistie, je ne sais plus exactement les termes, enfin, pour tous les soldats, par exemple, qui déserteraient et qui manifesteraient leur refus de la guerre d'Algérie. Ça, c'était une position qui a été quand même très, très personnelle. Je ne dis pas au seul temps moderne, mais un petit groupe d'intellectuels auquel l'État moderne se ralliait. Je pense que nous avons toujours gardé une très grande liberté de jugement et que nous avons tout de suite dénoncé les erreurs des procès Slansky, par exemple. Je me rappelle qu'il y a eu des articles très bons là-dessus. Nous n'avons jamais marché, justement, dans tout le stalinisme. L'État moderne n'a pas hésité à dénoncer les camps de concentration. Nous avons été quasi les premiers à le faire. Le fait est qu'il y a eu un éditorial de Sartre et Merleau-Ponty qui a tout de suite dénoncé ces abus des camps de concentration soviétiques. Donc ça, nous l'avons fait très vite. Même si, sur certains points, on pensait que sur la politique intérieure de la France, les questions, des syndicats, des salaires, etc., il fallait se rapprocher des communistes. Je pense que nous avons toujours eu une très très grande liberté d'esprit, et ça ne venait peut-être pas seulement de ce que nous avions su du communisme avant la guerre, mais aussi d'une disposition philosophique, héritée peut-être de Descartes, qui nous avait beaucoup influencé, Sartre comme moi, quand nous étudions la philosophie, qui était qu'il faut garder la liberté de son jugement.
Alors il y a de très belles pages, Claude Lanzmann, sur Simone de Beauvoir dans ce livre. Moi j'ai choisi cette archive pour continuer à parler de l'écriture, de la revue Les Temps Modernes, dont vous êtes depuis 1986, depuis la disparition de Simone de Beauvoir, le directeur. Et si Beauvoir et Sartre s'inscrivaient, comme elle vient de le dire, comme héritiers de Descartes, libres de leur jugement, vous perpétuez cet héritage, Claude Lanzmann, et vous avez un rapport très fort, très passionnel à la revue Les Temps Modernes.
J'essaye de le perpétuer, en tous les cas. J'essaye de le perpétuer, c'est pas... Enfin, je pense que ni Sartre ni Simone de Beauvoir ne rougiraient des temps modernes aujourd'hui. Ils les trouvent très bons. C'est, la revue est très, très ancienne puisqu'elle a été créée en 1945 et dans une revue qui a couvert quand même tout le champ intellectuel, philosophique, politique, littéraire de je sais pas, de 60 ans, 70 ans quasiment. Vous avez toujours des périodes de pointe, des eaux basses, des heures de reflux. Je pense que nous sommes en période de pointe. Il m'a fallu du temps et je dis toujours, quand on me pose la question et comment est-ce que vous pouvez être fidèle à Sartre, je dis que ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de maintenir ce que j'appelle un cap de non-infidélité. Bon. Parce que le monde change, je ne suis pas Sartre. Et bien que je me sente très proche de lui et que, d'une certaine façon, je sois intérieurement très sartrien, je trouve que ça se voit sûrement dans ce livre. Et voilà, quoi. La revue a changé, pas beaucoup, et
vous maintenez le cap, Claude Lanzmann. Antoine Guillot.
Oui, dans ce qu'a dit Simone de Beauvoir, à l'instant, il y a plusieurs choses et plusieurs questions qui se recoupent avec votre livre. Elle a parlé du rapport au stalinisme, et vous vous dites dans ce livre que malgré tout ce qu'on savait, ce que vous saviez sur l'URSS, vous le dites, l'Union soviétique resta longtemps comme un ciel sur ma tête, et vous allez dire un peu plus loin, en finir avec l'utopie m'a pris du temps. Ce qu'elle raconte sur la guerre d'Algérie, votre façon de raconter est absolument passionnante, parce que allant sur le terrain pendant la guerre, vous découvrez assez vite les dissensions internes qu'il y aura à l'intérieur et qui aboutiront aussi à la situation actuelle de l'Algérie. Et puis, dernière chose, et c'est un moment de bascule certainement très important dans votre vie, c'est là aussi que vous dites « Je croyais qu'on pouvait vouloir en même temps l'indépendance de l'Algérie et l'existence de l'État d'Israël, je m'étais trompé. » Et cette prise de conscience est à la fois passionnante et assez bouleversante quand on la lit.
Oui. Je vous dis, j'ai passé à la prière de Frantz Fanon.
Un personnage magnifique de votre livre aussi. Ouais.
Oui. Frantz Fanon, j'ai passé, je ne sais pas, une douzaine de jours avec... dans les unités de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale Algérienne, celle qui se trouvait cantonnée à la frontière tuniso-algérienne, à Gardimaou exactement. Et je suis arrivé là, conduit par un chauffeur qui voulait m'épater en me faisant risquer ma vie à tous les virages. Et je suis arrivé dans une sorte de caserne, accueilli par des jeunes gens en civil qui parlaient un français parfait. Et puis, nous sommes tous assemblés autour d'une longue table, vaste table. Et puis, chacun a pris place. Et moi, j'étais en bout de table, mais pas au haut bout de la table. Et au haut bout de la table est venu s'installer un type, un grand rouquin qui avait un transitor à l'oreille en permanence. Et puis, bon, ils m'ont fait subir tout un interrogatoire. Ils étaient très au courant de la situation en France. Mais ils me reprochaient à moi des choses, à moi qui les aidais. Comme si j'étais responsable de la politique française à leur endroit. Et puis, dans l'après-midi, on m'a envoyé alors dans les unités. J'ai marché pendant des heures en suivant un type qui avançait à toute vitesse comme une chèvre dans la montagne. Les avions français passaient, c'était tout au long de la ligne Châle. Bon, parce qu'ils ne pouvaient pas, elle était infranchissable, la ligne. Et cinq ou six jours avec des baroudeurs de l'ALN qui, de temps en temps, faisaient froid dans le dos parce qu'ils étaient égorgeurs de moutons, mais aussi d'hommes. Ils avaient fait ça. Bon. Mais il y avait parmi eux quelques types très sympathiques. Et puis je suis revenu alors à la caserne qui m'avait accueilli. Et j'ai été pris en main par un jeune capitaine, très beau, aux yeux bleus, formidable. Et puis qui me parlait lyriquement de la beauté, de l'imminence d'une embuscade contre les Français dans le sud algérien, etc., etc. Il ne m'a pas lâché, ce type. Et c'était l'actuel président de la République algérienne, Bouteflika, qui a vieilli, qui a grossi, enfin, etc. C'est plus du tout le même homme. Je lui avais, quand il a été élu président, je lui avais envoyé un mot parce que je ne l'ai jamais revu. Il n'a pas répondu. Il me disait, lui, après l'indépendance, nous devrons envoyer des missions en Israël. J'ai dit pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup à apprendre des Israéliens, dans quel domaine, la forestation, l'amélioration des sols, l'irrigation, etc., etc. Je trouvais ça très bien, très normal pour moi. Enfin, c'était pas inattendu. J'avais des lettres de Ben Bella. Ben Bella m'écrivait de l'île d'Aix. Il m'appelait cher frère. Et quand il a été libéré, j'étais à Rabat, j'avais été invité, je ne sais plus, c'est Rabat, je crois. Et alors, ils étaient tous là, il y avait toute l'Afrique révolutionnaire qui était là. Et alors, Ben Bella a passé les troupes de l'ALN de l'extérieur, parce qu'il y avait toute la grande lutte et la rivalité intérieure-extérieure qu'on retrouve dans tous les mouvements de
libération.
Libération, oui. Et Ben Bella a passé en revue quelques bataillons et en leur disant un discours très bref. Vous êtes notre sang, très bien. Et puis, je ne sais pas, un mois plus tard, Ben Bella a annoncé que les Algériens allaient envoyer 100 000 hommes pour libérer la Palestine, etc. Alors j'ai dit, ça va, ça suffit, salut, camarades. Et je ne les ai plus revus, et je n'ai plus revu non plus les Français que je connaissais, qui avaient combattu avec moi le colonialisme. Et j'ai réalisé mon film « Pourquoi Israël ?», en partie pour leur répondre et pour leur montrer que Israël n'était pas ce qu'ils disaient.
Alors justement, puisque vous parlez de cela, et pour permettre encore une fois de faire un aller-retour entre le passé, parfois dans ce livre, les portraits, et puis le présent, je vous propose une autre archive. On va entendre ici Albert Cohen, interrogé en 1976 par Jean Couturier. Albert Cohen.
Que pensez-vous maintenant de l'État d'Israël ? Parce que on sent dans votre œuvre toute cette préparation, toute cette volonté, tout ce désir qu'a le peuple juif d'avoir son État.
Ah oui.
C'est Manchou qui le dit beaucoup, enfin ce sont les valeureux qui en parlent beaucoup, et qui sont prêts, qui veulent un État d'une absolument non-violent, sans armée. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des raisons pour un juif d'être un peu déçu?
Déçu par quoi? Déçu par le fait qu'ils sont obligés de devenir
De se défendre, de se battre,
d'être... Oui, nous sommes un peuple malchanceux, mais nous sommes habitués à la malchance. Nous en sommes toujours bien tirés pendant 2000 ans avec cette malchance. Nous avons tenu le coup. Maintenant, ce que je crois, moi, c'est que il y a deux injustices, deux justices. Il est juste que ce peuple s'enterre et sa terre. Et il est juste aussi que les Arabes aient leur état, que les Palestiniens aient leur État. C'est comme cela que ça doit finir. Pourquoi n'auraient-ils pas leur État aussi, ces Palestiniens? Il y a de la place en Cisjordanie. Et cela finira ainsi, ça ne peut pas ne pas finir ainsi.
Voilà, Albert Cohen, 1976. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos d'Albert Cohen,
on est d'accord, quoi. Albert Cohen, je l'aimais beaucoup.
Ouais. Et vous le dites bien dans ce livre-là, Le Lièvre de Patagonie.
Je l'aimais beaucoup. J'allais le voir une fois par mois à Genève en avion. C'était formidable de le voir parce qu'il était. C'était un type très solitaire qui n'était pas du tout dans la vie littéraire parisienne. Alors j'arrivais le matin, et puis bon, il n'avait pas le droit de fumer. Et alors il me suppliait de lui donner une cigarette, je disais non, parce que sa femme m'interdisait cela. Mais comme je fumais moi-même, je finissais par céder, enfin bon, et les matinées se passaient ainsi, enfin il me lisait les lettres d'admirateurs, ou d'admiratrices, me disant... Le président Mitterrand forme un comité pour que j'aie le prix Nobel. Il l'aurait bien mérité, d'ailleurs, je trouve. Bon, et il avait besoin de cette réassurance.
Ça, vous dites cela, ouais.
Qu'on sente, c'était un génie inquiet, mais c'est normal, je trouve, l'inquiétude et le propre du génie. Moi, je ne connais pas de génie tranquille.
Et vous avez besoin, vous-même, Claude Lanzmann, de cette réassurance ?
Sûrement, oui. Sûrement. Absolument. Parce que...
Ça donne de l'énergie ?
Ça donne de l'énergie, ça, mais je veux dire, c'est sans fin. Je veux dire, c'est un irréalisable, la gloire. Et... Mais Cohen, on avait un rapport très, très marrant, très drôle, que j'avais institué moi-même. Moi, je lui lisais ses œuvres, l'après-midi. Après, au déjeuner, je lui lisais ses œuvres. Je connaissais beaucoup de choses par cœur. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous lise, Albert ? Je trouvais que c'était la meilleure forme de critique qui puisse être... Lire à un auteur ce qu'il a écrit. De temps en temps, je m'arrêtais et je faisais un commentaire. Mais il était drôle, il était plein d'humour. La première fois que je lui ai présenté Simone de Beauvoir, il était venu à Paris pour recevoir le Grand Prix de l'Académie française, je crois. Et alors, donc, il avait une chambre à l'hôtel Georges V, qu'il avait emmené sa femme, mais qu'il cachait. Et donc, j'avais convaincu Simone de Beauvoir de lire Belle du Seigneur, ce qu'elle avait fait et qu'elle aimait beaucoup. Et alors, on a été tous les deux, elle et moi, voir Cohen dans sa chambre de l'hôtel Georges V. Et il nous a reçus en robe de chambre somptueuse, damassée, enfin, etc. Et puis avec toujours son éternel chapelet d'ambre qu'il triturait, et puis qu'il l'aidait à se passer de cigarettes en même temps. Et lui n'avait jamais lu une ligne de Simone de Beauvoir, c'était clair. Bon. Et donc c'était très, très sympathique, très agréable. Il était adorable. Au moment où nous allions partir, il a été ouvrir la porte de la salle de bain, d'où il a extirpé sa femme, Bella, pour la montrer. Elle est venue, elle a fait une sorte de génuflexion, et puis il l'a repoussée dans la salle de bain. Il était assez macho. Alors Beauvoir était un peu affolé, effrayé, comme quand je lui ai raconté au retour de mon séjour auprès des combattants algériens qu'ils m'avaient tous dit que la guerre terminée, ils allaient réinstaurer la polygamie. Nous avons eu tant de nos frères ont été tués que nous ne pouvons pas laisser nos sœurs seules. Donc chacun doit en avoir plusieurs.
Ouais. C'est une façon
ça se défend.
De voir les choses. Alors, on essaye de faire un peu comme vous dans ce livre, le livre de Patagonie, et on voit à quel point votre rapport à l'écriture, Claude Lanzmann, est important, mais il n'empêche quand même qu'il faut bien qu'on y arrive, comme ce livre y arrive, à parler de cinéma, et à parler notamment sur ces 150 dernières pages du film Shoah. Mais pour en arriver là, une toute dernière archive dans cette émission, je propose d'entendre quelqu'un qui a compté à sa façon, c'est Désite Galard, la productrice de l'émission phare des années 60, Dim Dam Dom.
Très fier, mais je pense que tous ceux qui ont travaillé à Dim Dam Dom, mais je fais pas ça comme si j'étais au César et que je remerciais toute l'équipe.
Oui.
Je veux dire, vas-y, il y a eu beaucoup de monde et Dim Dam Dom, c'était ça. Et c'était, je crois qu'il faut peut-être insister un tout petit peu sur ce point, c'est que c'était une mission porte grande ouverte. Et il y a eu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur les 80 numéros de Dim Dam Dom, il y a eu à peu près, j'ai calculé comme ça rapidement l'autre jour, il y a eu 1 000 000 de collaborateurs. D'auteurs, de metteurs en scène, de photographes, d'auteurs, de comédiens, de monteurs, de techniciens. Et je veux dire, on changeait beaucoup de monde, ouais. Si vous voulez. Et ce qui fait que les gens apportaient le meilleur d'eux-mêmes, et c'est comme ça qu'on faisait de la bonne télé.
Beaucoup de gens ont démarré chez vous, quand même.
Beaucoup de gens ont démarré, et j'allais dire, ils démarraient, ils faisaient peut-être une chose, deux choses, un sujet, deux sujets, et ensuite ils allaient ailleurs, et j'allais dire, et ils s'éclataient ailleurs, après s'être éclatés chez moi. Mais je veux dire que ils restaient pas à la maison, on les couvait pas à Dim Dam Dom.
Voilà, c'était Désite de Galard qu'on va entendre là. Elle était interrogée en 1991 par Stéphane Mallard. Alors, Claude Lanzmann, vous avez fait partie de ce millier de personnes qui est passé par Dim Dam Dom. Vous y avez réalisé de très nombreuses interviews, entretiens.
Pas mal, oui, pas mal. J'en ai fait beaucoup.
Qu'est-ce que ça vous a appris, cette forme-là, et en quoi ça vous a servi plus tard ?
C'est absolument sûr que ça m'a servi.
Savoir cuisiner quelqu'un. Vous racontez une histoire avec Pierre Cardin, notamment, un portrait...
Cardin, je l'ai seulement cuisiné, là, vraiment. Je l'ai cuisiné longuement. Il fait parler de ses débuts, de Vichy, de tout ça. Et puis, finalement, l'émission a été programmée le 10 mai. 1968.
Oui, il se passait vaguement quelque chose ce soir-là, non ?
Oui. Et alors, il m'avait invité à dîner avec le réalisateur. Moi, j'étais pas réalisateur, j'étais interrogateur. Qui s'appelait Seligman, Guy Seligman. Et puis, il y avait, je ne sais pas, Madame Alphand, l'ambassadeur Alphand, etc. Et puis, un ou deux mignons de Cardin, et moi j'étais assez gêné parce que je trouvais mon interrogatoire très efficace et très très vache, finalement. Et comme tout le monde lui a dit, vous êtes formidable, Pierre, etc., etc., donc il était très content, il m'a remercié. Et moi je n'avais qu'une hâte, c'est partir au plus vite. J'habitais rue de Tournon à l'époque. Et c'était là où les choses se passaient. Alors, j'ai passé la nuit dans les bagarres avec les CRS, enfin, etc. Mais il n'y a pas que Cardin. Moi, c'est mes souvenirs, j'ai interrogé des bonnes sœurs. 5 bonnes sœurs ensemble. Alors parmi les bonnes sœurs, il y avait une agrégée de philo, mais il y avait des sœurs cloîtrées, qui était sorti du cloître, et pas de carmélite, non, mais enfin, c'est de la religion très sérieuse, et ça a été formidable. Je leur demandais alors, pas de maquillage, pas de rouge à lèvres, etc. J'ai interrogé 5 flics, alors, 5 policiers, pardon.
Du gardien de la paix jusqu'au
gardien
au chef.
De la paix jusqu'à un grand bureaucrate, ouais. De la préfecture de Popolis, et ils ont hésité à passer ça, ils ont hésité, Elle a dû se battre. Et finalement, c'est passé. Bon. Je sais pas, j'ai interrogé Delphine Seyrig, enfin, plein d'autres. Enfin,
plein d'autres.
Antoine. Mais ça m'a... Ça m'a aidé pas mal, parce que Shoah, c'est aussi une investigation criminelle, à bien des égards.
Parce qu'on y arrive tout de même, comme vous-même y arrivez, Claude Lanzmann, parce que ce film qui a quand même occupé 12 années de votre vie, on pourrait dire aussi sans doute toute votre vie, parce qu'il était là avant, sans doute, et qu'il est toujours là avec vous, qu'il vous accompagne et que vous l'accompagnez, même s'il y a bien d'autres choses que vous avez fait. J'espère qu'on a fait comprendre aux auditeurs qu'il n'y a pas que Shoah.
Non, il n'empêche que... Il y a pourquoi Israël.
Pourquoi Israël ? On en avait parlé ensemble il y a 2 ans, mais il y a d'autres films, et puis il y a la revue, et puis il y a ce livre aujourd'hui qui existe. Mais c'est longtemps dans ce livre, en tout cas, comme la figure absente, comme une sorte de trou noir vers lequel on va se diriger, comme le motif dans le tapis d'Henri James. Voilà, Shoah, il est quand même tout le temps là dans ce livre, Antoine Guillaume, et on attend. Mais alors, mais pour le coup, l'attente est comblée.
Ce qui fait que le livre a un peu une forme de spirale, comme ça, dans lequel Shoah va apparaître de temps en temps, et les 130 dernières pages du livre, ils sont là profondément consacrés. Et c'est vrai que vous parliez d'investigation criminelle, et ces pages-là se lisent à la fois avec une émotion intense, parce que c'est la même émotion en lisant ces lignes qu'on peut avoir en regardant et en étant regardé par votre film, comme vous le dites justement dans ce livre, mais aussi parce que vous racontez, et il me semble que c'est la première fois que vous le faites, comment a été fabriqué Shoah. Et là, on tombe par moments, on est dans un roman d'espionnage incroyable, parce que vous racontez comme il était très important pour vous qu'il y ait des nazis dans votre film et qu'il y ait leurs paroles, et que vous êtes vite rendu compte qu'en arrivant, coucou, je m'appelle Claude Lanzmann, je fais un film sur l'extermination des Juifs en Europe, vous aviez du mal à obtenir cette parole. Vous racontez comment...
C'est impossible.
Et grâce à une invention formidable, qui est celle de Boviala, qui est la paluche, cette caméra qu'on pouvait dissimuler. On imagine maintenant, avec les technologies actuelles, que vous auriez pu filmer ces passages en ayant une caméra dissimulée dans vos lunettes, comme ça peut se faire maintenant, mais avec cette technique-là, et vous le racontez de manière incroyable, comment vous introduisez chez les gens avec un nom d'emprunt sous des prétextes variés, et vous obtenez ou pas cette parole, parce qu'il y a un passage à tabac dans ce livre de votre assistante et de vous-même, quand on se rend compte de ce que vous êtes en train de faire, qui est absolument saisissant.
Enquête, toujours, hein. Investigation, prise de risque.
Espionnage.
Prise de risque.
Ah oui, c'était vraiment, vraiment dangereux. Et là, je le savais que ça allait mal finir, en plus. Je le savais, j'avais le pressentiment, parce qu'à force de tourner tous les jours avec des nazis, on était un peu dans une sorte de routine. Et je me disais, ça ne va pas pouvoir durer. Et là, arrivons chez Schubert, enfin, je décris en détail comment ça s'est passé, l'impossibilité de se garer, sauf sur des pistes cyclables, et puis la méfiance absolue de la femme de Schubert. C'est un véritable film policier, la fuite, enfin, tout ça. Mais dans Shoah, il y a tant de choses, il y a des scènes de western aussi, enfin.
Des lièvres.
Quoi ?
Et des lièvres. Donc,
et des lièvres.
On n'a pas évoqué le lièvre de ce titre, d'autres le feront, mais ces lièvres-là que vous avez vus courir.
Oui, oui, j'ai vu ça en tournant à Birkenau, enfin, par grand froid, des lièvres arrêtés devant les barbelés infranchissables pour l'homme, et qui regardaient, qui réfléchissaient comment passer. Et ils affaissaient leurs pattes, leurs longues pattes arrière, et ils se glissaient sous les barbelés. Et c'est un plan que j'ai volontairement monté sans insistance, enfin, vraiment. Mais on le voit, 2 lièvres. Et il me plaisait d'imaginer que les millions qui sont morts là-bas étaient réincarnés en lièvres, chacun sa transcendance.
Antoine.
Mais pour revenir à cet épisode où vous alliez filmer, vous saviez qu'il y aurait, qu'il se passerait quelque chose de dangereux. C'est comme une épine dorsale de ce livre qui revient régulièrement et qui est là dès le départ quand la question de la résistance se pose pendant la guerre. Vous dites, j'étais un peu un résistant amateur parce que je n'étais pas prêt à mourir. Au fond de moi, je le savais. Et que ce soit quand vous allez vous baigner dans sur une plage dangereuse en Israël et que vous allez être emporté par le courant, que ce soit quand vous partez avec Simone de Beauvoir dans des randonnées incroyables dans la montagne sans aucune préparation de manière incroyable, et là aussi quand vous allez filmer un nazi en sachant qu'il va finir par se passer quelque chose parce que vous êtes trop sûr de vous, c'est sans
non,
arrêt...
Non, je ne suis pas sûr de moi. Non, mais vous l'avez senti que...
Oui, mais vous disiez...
Vous allez quand même.
À force, il y avait, on ne prenait plus garde. Et il y a un côté, Lanzmann trompe la mort, comme si ce livre, qui choisit la vie et qui le dit tout le temps, était là sans arrêt pour aller regarder la mort d'aussi près possible dans les yeux, mais aussi pour la tromper et choisir la vie.
Je me suis toujours lancé des défis à moi-même et me disant tu devrais ne pas les relever, ne pas y aller. Mais à partir du moment où je m'étais lancé le défi, je ne pouvais pas reculer. Pour moi, c'était me dégonfler. Et à mes propres yeux, je ne voulais pas le faire. Quand j'ai volé, par exemple, en F-16, avec un F-16 de l'armée de l'air israélienne, où mon pilote était le commandant second, Ethan Ben Eliaou, un mélange d'Irakien et de Serbe. Un beau type avec le visage bronzé, un peu busqué. Enfin. Et alors, j'avais déjà volé en fantôme. Et qui me dit, on était en train de me sangler, de m'attacher, il me dit, vous êtes sûr de vouloir y aller? Vous pouvez toujours dire non, il n'y a pas de honte. J'ai dit non, on y va, mais il accroissait ma... Mon anxiété encore plus. Et alors très bien, on a attendu assez longtemps au bout de piste parce qu'il y avait des problèmes. Et puis il a démarré, il a décollé en me faisant deux tonneaux immédiats, en plein décollage. J'ai pas bronché, j'ai pas vomi. Et puis après il m'a donné le manche et j'ai fait le tonneau moi-même. J'étais assez fier de ça, je dois dire.
Alors, trompe la mort, et puis il y a aussi quand même une chose qui revient souvent dans ce livre. Il nous reste à peine 2 ou 3 minutes pour l'évoquer, Claude Lanzmann, mais c'est la question du suicide. Non pas jamais que cela ait été une tentation chez vous, mais une grande interrogation. Alors, il y a un très beau portrait de votre sœur, Evelyne, qui s'est donné la mort, mais je voudrais qu'on cite ici le nom de Bacot, votre camarade du lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Oui, oui.
Parce que vous pouvez dire quelques mots sur ce garçon-là, Bacot ?
Ah oui, il faut... Donc c'est moi qui ai organisé la résistance au lycée Blaise Pascal.
Vous l'avez créé, vous avez créé un réseau dans votre lycée.
Créé entièrement. Et un jour, lui était en classe de philosophie, moi j'étais en lettres supérieures, et il vient me voir, et c'était un type pas très grand, enfin 1m70, costaud, carré, avec la falaise du front, des sourcils charbonneux, les yeux profondément enfoncés dans les orbites, très noirs. Et il me dit qu'il veut joindre la résistance, qui sait que c'est moi. Il me dit, mais ce que vous faites ne m'intéresse pas. Je veux être dans les groupes d'action. Je lui dis, tu sais ce que ça veut dire, les groupes d'action? Il me dit, oui. J'ai dit, écoute, tu réfléchis une semaine. Et puis tu reviens me voir dans une semaine. Ce qu'on faisait, on faisait des choses dangereuses, on transportait des valises d'armes, etc., etc. Bon, on inondait la ville de tracts. Mais lui voulait être dans les groupes d'action. Le problème des communistes, c'était les armes. Ils n'avaient pas droit au parachutage, etc. Donc il fallait tuer des Allemands ou des miliciens.
Pour récupérer les armes à chaque
semaine,
fois.
Ouais. Au bout d'une semaine, il est revenu. Il m'a dit, je n'ai pas changé d'avis, donc je l'ai... exfiltré du lycée, Et puis, il a tué des miliciens et des Allemands pendant plusieurs mois dans les rues de Clermont-Ferrand.
Pour récupérer les armes, hein, donc, hein, je l'explique
encore. Pour récupérer les armes, et en même temps, c'était la politique du Parti communiste, il fallait les tuer. Et puis, il a été pris, finalement, sur la place centrale de Clermont-Ferrand, la place de Jaude, dans une Vespasienne, c'est-à-dire... une Vespasienne tournoyante en forme de limaçon où les hommes allaient pisser, uriner. Et au cœur même du limaçon, il était entouré, complètement cerné, au cœur du limaçon de la Vespasienne, il s'est tiré une balle dans la tête. Voilà.
Et pour ne pas risquer, bien sûr, de donner des noms s'il était interrogé.
Pour ne pas parler sous la torture. C'est ça l'héroïsme, c'est ça le courage absolu.
Voilà pourquoi je voulais que vous parliez notamment de Bacot, ici Claude Lanzmann, l'un des héros de ce livre, Le Lièvre de Patagonie, ses mémoires, dont nous avons donné à peine une très petite idée par rapport à la richesse qu'il contient. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce jour de sortie du Lièvre de Patagonie.